Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Florent Guignard. Florent, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. À la une, le débat présidentiel aux États-Unis hier soir entre les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump. Reportage à suivre dans ce journal, dans un bar dans le sud des États-Unis, un bar acquis à la candidate démocrate. La réforme judiciaire finalement adoptée au Mexique après une journée chaotique au Sénat qui a dû se délocaliser après avoir été envahi par des manifestants. Et puis les chefs des diplomaties américaines et britanniques en visite en ce moment même à Kiev en Ukraine. 90 minutes entre une vice-présidente et un ancien président. C'était hier soir, donc, aux États-Unis, le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Le premier, même si la candidate démocrate souhaite que ce ne soit pas le dernier, déclaration de son entourage juste après cette confrontation télévisée arbitrée par deux journalistes de la chaîne ABC. Donald Trump lui a jugé qu'il avait livré son meilleur débat, alors que le mari de Kamala Harris, lui, a dit que c'est elle qui avait gagné ce débat, même si nous n'avons encore rien gagné d'autre. Même satisfaction chez des électeurs démocrates que notre correspondant à Atlanta, Edouard Maille, a rencontré dans un bar.
Dans ce bar démocrate, les spectateurs doivent se frayer un chemin en levant leur bière. À peine 5 minutes que le débat a commencé, l'ambiance est à la fête. Mais à chaque prise de parole de Donald Trump, Sherryman Stewart, 63 ans, se prend la tête dans les mains.
J'ai l'habitude qu'il dise plein de mensonges, mais une partie de moi a de la peine pour lui.
Christian, la trentaine, se réjouit des prises de position de Kamala Harris.
Elle prend une posture un peu plus forte sur le conflit israélo-palestinien. Elle attaque Trump de différentes façons, un peu comme une procureure, ce que Biden n'avait pas montré quand il était à sa place. Honnêtement, elle apporte beaucoup plus d'énergie.
Beth Rivera, 58 ans, est aux anges.
Je suis très fière de Kamala Harris. Elle a exprimé sans faute ses idées et je pense qu'elle va réussir à tendre la main à des gens raisonnables et des Américains ouverts d'esprit, comme la majorité le sont.
Pour couronner la joie de ces démocrates, quelques minutes après la fin du débat, la chanteuse Taylor Swift a appelé ses fans à voter pour Kamala Harris. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Le chef de la diplomatie des États-Unis et son homologue britannique sont arrivés tout à l'heure à Kiev. Anthony Blinken et David Lamy ont pris le train en Pologne pour rejoindre la capitale ukrainienne. Alors que les États-Unis disent réfléchir à envoyer à l'Ukraine des missiles longue portée après les révélations sur les livraisons de missiles iraniens à la Russie. Réponse ce matin du chef de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Nous devrons utiliser des armes plus puissantes et plus destructrices. Dernières infos de la guerre qu'Israël mène à Gaza. Un hélicoptère de l'armée israélienne s'est écrasé. Deux soldats ont été tués dans la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Il s'agissait d'une mission d'évacuation d'un soldat israélien blessé. L'armée israélienne précise que cet accident n'a pas été causé par des tirs ennemis. L'armée israélienne, par ailleurs, elle affirme avoir visé un centre de commandement du Hamas après la double frappe qui a tué une quarantaine de civils, selon un bilan toujours provisoire, dans une zone humanitaire du sud de la bande de Gaza. Une accusation d'ailleurs démentie par le Hamas, même si selon nos informations, des combattants du Hamas se trouvaient bien sur place au moment des frappes. Reportage de notre correspondant Rami Al-Merari avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Les frappes israéliennes ont balafré le sol. Deux énormes cratères, tout a été englouti, les tentes et leurs occupants. 10 mètres de profondeur, presque tous ceux qui étaient là sont morts. Ahmed El-Sha'er et sa famille sont des miraculés.
Je n'ai rien vu, rien entendu, même pas les explosions. Je dormais et puis tout à coup, je me suis réveillé. J'avais la toile de ma tente sur le visage. Et j'ai senti qu'on me tirait, j'étais enterré vivant, on m'a sorti des décombres.
À ses côtés, Maha, son épouse, a également eu la vie sauve.
On a été ensevelis tous les quatre, avec mon mari et nos deux enfants. Il était minuit passé, je n'ai pas compris ce qui nous est arrivé. J'ai ouvert les yeux, autour de moi, les gens criaient et couraient dans tous les sens. Je me suis mise à crier et à courir moi aussi.
Mais dans cette zone dite humanitaire d'Al-Mawasi, d'autres sont en deuil. Nimr el-Zahar a perdu sa nièce, elle avait 5 ans.
Ils ont lâché 5 ou 6 missiles sur des tentes de déplacés. Vous imaginez ? Des armes qui peuvent réduire des montagnes en poussière ont été lâchées sur des enfants, dans une zone désignée comme sûre par l'armée israélienne elle-même. C'est l'armée qui nous a ordonné de venir ici. Et on a obéi. Et finalement, bébé ou vieillard, ils nous brûlent tous vifs.
Contacté à Gaza, un autre témoin qui requiert l'anonymat affirme « Il n'y avait pas de centre de commandement du Hamas, contrairement à ce que prétendent les Israéliens. Mais des combattants du Hamas étaient effectivement sur place. C'est inacceptable, ils nous mettent en danger », conclut-il. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourfi à Jérusalem, RFI.
C'est une première mondiale. Le Mexique vient d'adopter une réforme judiciaire qui va permettre l'élection de tous les juges par un vote populaire, y compris les juges de la Cour suprême. Réforme voulue par le président sortant de gauche, Andrés Manuel López Obrador, et qui provoque des manifestations d'opposition depuis des semaines. Hier soir, le Sénat a finalement approuvé le texte à l'issue d'une journée chaotique au cours de laquelle la Chambre haute a été envahie par des manifestants à Mexico. Gwendoline Duval.
Plus tard dans la soirée, le Sénat mexicain, délocalisé dans un siège alternatif, a repris tout de même la séance dans un climat tendu. Les sénateurs se sont retranchés dans le centre de Mexico, dans l'ancien siège de la Chambre haute, encadré par un imposant dispositif policier chargé de retenir les manifestants et éviter une nouvelle intrusion. Quelques heures plus tôt, un groupe d'opposants a pris d'assaut le bâtiment du Sénat, avenue Reforma, hurlant à la traîtrise et semant la panique chez les membres du Congrès. Un scénario quelque peu similaire s'était déjà produit la semaine dernière quand les manifestants à la réforme judiciaire étaient parvenus à bloquer les accès à l'Assemblée nationale. Mais cela n'avait pas empêché le vote. Les députés ont approuvé largement la loi quelques heures plus tard repliée dans un gymnase. Au Sénat, où la présence de Morena, le parti au pouvoir, est un peu moins prononcée, il manquait la voix d'un seul sénateur pour obtenir la majorité qualifiée suffisante. Alors, tout au long de cette journée chaotique, les 43 élus de l'opposition ont dénoncé des pressions du camp adverse. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Francine est désormais un ouragan, une tempête devenue un ouragan de catégorie 1 et qui doit toucher aujourd'hui la Louisiane dans le sud des États-Unis. On redoute des inondations en Asie. Le typhon Yagi lui a fait ses premières victimes en Thaïlande et au Laos, alors qu'on compte 155 morts et 141 disparus au Vietnam. Le pape François est arrivé à Singapour, dernière étape de la tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie du chef de l'Église catholique. C'est son plus long voyage à l'étranger. Il est passé par le Timor oriental, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. RFI midi 8 à Paris, le groupe Nestlé échappe à un procès en France. Deux enquêtes préliminaires avaient été ouvertes pour des forages illégaux et pour tromperie. Bien finalement, Nestlé échappe au procès en payant 2 millions d'euros d'amende. L'association Foodwash, qui avait porté plainte, refuse cet arrangement. Écoutez, Ingrid Crayeul est la directrice de l'information et l'experte des questions de fraude chez Foodwatch.
On nous a demandé de chiffrer le préjudice subi à Épinal, ce qu'on a catégoriquement refusé. On estime que la tromperie n'a pas de prix et qu'il n'y avait aucun montant qui pouvait réparer en fait cela et qu'il fallait une véritable instruction et qu'il fallait que ça aille jusqu'au procès. Et surtout, nous, ce qu'on voulait, c'est que les responsables de Nestlé Waters rendent des comptes. Les consommateurs continuent de laisser dans le flou. Les produits ont été commercialisés pendant très longtemps et ce, partout dans le monde. Donc, c'est tout à fait inacceptable vu la gravité et l'étendue de cette fraude. Donc aujourd'hui, la décision, nous, on la trouve scandaleuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle envoie un très mauvais message sur le climat d'impunité. Finalement, ce que ça dit, c'est que Nestlé Waters peut tromper les consommateurs pendant des années dans le monde entier et s'en tirer à bon compte en sortant simplement le chéquier.
Ingrid Crayeul, la directrice de l'information chez l'association Foodwatch. Presque midi 10 à Paris, on arrive à la fin de ce journal et je vais céder le micro à Emmanuel Bastide, 8 milliards de voisins.
Bonjour Florent, merci à vous.